On va rester au Japon quelques minutes, Sidi, ouais. Puisque le 11 mars est sorti De l'autre côté de la porte, un film de Lawrence Trush.
Ouais.
Peux-tu nous expliquer ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte ?
Alors, de l'autre côté de la porte, il y a un adolescent dont je ne me rappelle plus du nom, malheureusement. Voilà, c'est un film qui est parti d'un documentaire qu'a vu le réalisateur autour de l'okikomori, un phénomène pas spécifiquement japonais, mais bon, qui a été un peu particulièrement découvert là-bas, de, comment on va dire ça, de marginalisation des jeunes, des adolescents, qui décident du jour au lendemain de renoncer à leur vie sociale, hein, et de rester dans leur chambre, de ne plus du tout avoir d'interaction avec l'extérieur. Et donc ce film part de ça, d'un jeune homme qui, après une petite vingtaine de minutes où on le voit dans la ville avec son petit frère, où on le voit en classe en train de s'ennuyer, décide un beau jour de ne pas descendre dîner, alors que sa mère l'appelle un jour, et puis un autre jour. Et puis, ce qui est vraiment intéressant dans ce film, qui dure un peu moins de 2 heures, c'est qu'il va vraiment tourner autour de ça, de cette espèce d'absence extrêmement présente. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait aux gens qui restent dans la vie normale de voir l'un des leurs leur fermer la porte, littéralement, quoi. Et c'est ça, c'est cette porte fermée qui va être l'objet dramaturgique principal. Et je trouve qu'à ce niveau-là, le film, qui n'a rien de spécialement original dans sa mise en scène, mais qui est quand même, je pense, assez bien tenu, voilà, quoi, arrive à donner matière, à donner corps à ce phénomène-là, de l'okikomori, donc de la désocialisation.
On avait un peu parlé dans le podcast précédent, vous pouvez vous référer au podcast qu'on a tourné, qu'on a enregistré à Vesoul avec Jérémy, puisqu'il y avait un documentaire sur les okikomori qui était présenté. Et c'est vrai que le film se heurtait en tant que documentaire au fait de ne pas pouvoir pénétrer dans la chambre. C'est-à-dire que le sujet échappait en fait tout simplement au film, puisqu'il était immontrable, injoignable, et c'était impossible de pénétrer vraiment le sujet du film. Comment est-ce qu'en termes de fiction, justement, ce film y arrive, Nicolas ?
Justement, il prend le parti pris dans le film de ne pas rentrer dans la chambre quasiment pendant tout le film, quoi, jusqu'à... parce que ça a une bonne partie du film, justement, donc il reste enfermé dans cette chambre, et justement, il prend le parti pendant tout le film de rester à l'extérieur, d'être avec les parents, la famille. Donc ça, on va dire que c'est le côté très intéressant du film, mais c'est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire que je trouve qu'il ne fait pas vraiment grand-chose après par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, par rapport à sa famille, quoi. C'est assez répétitif.
Bah, y a un rapport de force avec le père, quand même, qui est
plutôt
intéressant.
Justement, le personnage du père, je ne l'ai pas compris, quoi. On le voit 3-4 scènes, même pas, et... on n'a pas vraiment le temps de comprendre sa réaction, quoi, par rapport à...
Bah, disons qu'il essaye, c'est vrai qu'au début, voilà, c'est quelqu'un de très occupé, c'est plutôt la mère au départ qui est un peu soucieuse de ce qui arrive à son fils, qui essaie de le nourrir, qui dépose de la nourriture devant sa porte, qui regarde si c'est pris ou pas, qui essaie de l'intercepter une fois lorsqu'il sort pour éventuellement se doucher. Et le père, bon, voilà, c'est la mère qui, je crois, à un moment lui dit qu'il y a quelque chose de bizarre avec son fils, il essaye... de faire preuve d'autorité, et c'est là qu'ils vont commencer à se battre un petit peu. Le gars va vraiment refuser de sortir, son père va lui gueuler dessus, et voilà.
Et après, le père, il disparaît.
Oui,
et
ensuite, le père...
il s'en fout, il est en train de manger tout seul, il essaie de cacher de la famille, quoi.
Bah après, c'est ça, c'est comment chacun s'adapte, quoi. Voilà, voilà, c'est effectivement un film qui peut... on peut s'ennuyer au bout d'un moment, au bout d'une heure, une fois, effectivement, qu'on a dépassé... l'installation de ce retrait, c'est un film qui peut sembler un petit peu lent, mais je trouve que cette lenteur est cohérente, c'est-à-dire que c'est un film qui fait un peu corps avec ce sujet, et donc ce point aveugle, je trouve, de l'absence du jeune héros, qu'on a quand même un petit peu vu au début, je trouve réussi à le rendre d'autant plus présent, c'est-à-dire que le personnage, je trouve, est présent sans être à l'image, quoi, et je trouve qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose de pertinent. Et au niveau
ça, c'est le truc vraiment intéressant du film, d'ailleurs, mais... d'un autre côté, je trouve que le procès de mise en scène est toujours le même. C'est-à-dire qu'il a un système, une idée de plan, c'est de foutre un bout de plafond, un bout de porte, un bout de n'importe quoi, à moitié dans le cadre, pour montrer le côté enfermé du personnage, ou le cadre dans le cadre. Enfin, toujours quelque chose, un objet, ou un pan de mur, ou un bout de plafond, qui est filmé comme une intrusion dans le cadre. Et donc ça, c'est son idée de mise en scène, et il trouve qu'il l'utilise, mais que ça, quoi. Tout le temps, c'est que ça. La façon dont il filme à chaque fois la porte, en plongée, avec le bout de plafond, par exemple, qui dépasse par le haut, ou la façon dont il y a toujours la porte entrebâillée sur le couloir, ou sur les escaliers, ou des trucs comme ça, quoi.
Après, oui,
après c'est très répétitif, quoi, en fait.
On sent les limites d'un premier film. Voilà, c'est un film, en plus, qui a été tourné en 2008. Voilà, c'est vraiment un film qui a eu du mal à être distribué en France. Il en a fait un autre qui va sortir, je crois, cette année aussi. Donc,
toujours au Japon ou...
Je sais pas, je devrais m'enseigner. Mais voilà, voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est un film, effectivement, où tu sens parfois que ça stagne un petit peu au niveau de l'inspiration. Mais après, voilà, quand on va pas dire la fin, mais il y a quand même, je trouve, quelque chose qui se passe au fur et à mesure.
C'est très prévisible, c'est aussi très prévisible, en fait. C'est comment, exactement comment ça va
finir. La question, c'est quand même, comment est-ce qu'on va réussir à apprivoiser ce personnage un peu sauvage
De la société qui aide les hikikomori à redevenir des personnes...
Mais il n'est pas forcément dit que ça fonctionnerait. C'est-à-dire on sent le labeur qu'il y a à essayer de convaincre un jeune homme à nous laisser entrer, mais en plus à vouloir nous écouter. Et à ce niveau-là, je trouve que même si effectivement on se doute qu'il y aura une sorte de mini happy end, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se tient, une petite tension qui est plutôt pas mal établie dans ce film tourné en noir et blanc. Et je trouve que c'est plutôt intéressant aussi, ça donne...
Après, il y a cette scène qui est très bien, qui est le moment où on re-rentre à nouveau dans la chambre, où tu vois toutes ces bouteilles dans tous les sens.
Oui, l'accumulation des bouteilles.
Des bouteilles, donc ça, ouais. Qui est assez bien filmé, la façon dont il se rapproche au fur et à mesure du personnage.
Donc t'es pas totalement contre le film, quoi.
Ah non, je suis pas totalement... Ouais. Juste que je me suis un peu emmerdé de te... Pourquoi, quoi ? Parce que ça se trouve ça répétitif et un peu lent, mais...
C'est un film qui pourrait pas être divertissant de toute manière. Ouais. Je pense qu'on se fait autant chier que les personnages du film, finalement.
Oui, enfin, c'est ça, aussi, mais c'est un peu le problème, quoi. C'est...
Voilà. Ouais.
Bon, bah, très bien. Donc, de l'autre côté de la porte, qui est peut-être encore en salle à l'espace Saint-Michel, où là, ça va commencer à être un peu compliqué pour le voir, mais qui devrait sortir disponible en DVD un jour, peut-être.
Hein. Dans 2 ans, ça
mérite. D'ici quelques années. Le 1er avril 2015 est une date dans l'histoire du cinéma français, puisque deux films asiatiques, l'un coréen, l'autre japonais, sont sortis en salle le même jour. La maison de Toit Rouge et Sea Fog, les clandestins. Commençons par Prendre la mer, en compagnie du premier film de Shin Sung-bo. Jérémy, de quoi parle Sea Fog, les clandestins, et qu'as-tu pensé de ce premier film du scénariste de Bong Joon-ho, qui lui aussi a fait un film sur les hikikomori dans Tokyo.
Tout à fait, belle transition. Alors Sea Fog, c'est l'histoire d'une bande de marins pêcheurs qui sont un peu dans la galère financière, et le capitaine décide, sans consulter son équipage, de prendre des clandestins à bord. Et donc on va suivre le cheminement de leur périple en mer jusqu'à un événement. Voilà.
Je sais que ça devient un vrai film coréen et donc que ça parte complètement.
Exactement. Et donc, comme tu disais, c'est un vrai film coréen. Donc, ce qui m'a plu, c'est que c'est très léché, c'est très beau. Il y a une superbe gestion de la lumière, photo magnifique. Voilà, il n'y a rien à dire sur la mise en scène, etc. Après, on sent l'inspiration de Bong Joon-ho. Il essaye de marier un peu les genres. Il y a des ruptures de ton. On part sur des scènes un peu comiques, absurdes. Il y a de l'humour noir, etc. Mais ça prend jamais vraiment, il y a toujours c'est un entre-deux permanent et on sait pas vraiment où il veut aller, en fait, avec
lui-même est d'ailleurs producteur et co-scénariste,
c'est ça,
semble,
ouais. Et donc voilà, il y a Bong Joon-ho partout dans le film, sauf que c'est pas du Bong Joon-ho,
il est arrivé à Bong Joon-ho d'être aussi un peu confus, je trouve, dans certains de ses
films
mythiques. Exactement. The Host aussi, il y a un peu ce problème-là, pour moi en tout cas. Et je crois que Justin est un peu d'accord avec moi.
Mais là, on retrouve justement ce côté un peu bordélique.
Mais puissance 10, quoi.
Et voilà, c'est un peu puissance 10 millions.
D'accord.
Et le film est scindé un peu en deux. Et on part d'une chronique sociale. On part d'une chronique sociale un peu âpre, mais avec des personnages un petit peu... ils sont positifs, c'est des personnages un peu à la Ken Loach, un peu dans la galère, où, mais on sent qu'ils ont envie de s'en sortir, ils sont pas, voilà, ils sont pas détestables, etc. Et puis plus le film avance, plus on part dans une noirceur assez étrange et une atmosphère un peu funeste, un peu étrange. Et donc après on part dans une sorte de survival un peu super violent, ultra violent. Donc il y a vraiment une rupture de ton et vraiment très étrange. Et ça peut le faire, sur certains cas ça peut le faire, mais là en l'occurrence on comprend pas trop, en fait il y a un problème de scénario, on comprend pas trop pourquoi ces personnages là arrivent à de telles extrémités, ouais. Alors que bon, c'est pas super bien amené dans l'écriture, en fait.
C'est vrai que chez Bong Joon-ho c'est un espèce de chaos qui est organisé, ça marche par rupture, puis on passe à quelque chose d'autre, et il y a une certaine subtilité dans l'écriture de la mise en scène, hein, qui nous fait en gros avaler un peu ça.
Dans la caractérisation aussi, il prend beaucoup plus de temps de présenter les persos là.
Et ici, ce mélange des genres, cette rupture au milieu, où on passe vraiment d'un film social à un film de genre, apparaît comme finalement extrêmement incohérent par rapport au parcours des personnages. Comme tu l'as dit, Jérémy, on passe de personnages qui, de caractérisation sociale, des personnages qui galèrent un peu et qui, au fond, peuvent être présentés de manière assez positive, à quelque chose d'assez détestable finalement sur la nature humaine, voire finalement sur les classes sociales les plus basses, qui ne vivent que par les instincts les plus vils. Mmh. Et quelque chose d'un peu tangent dans cette deuxième partie, en plus d'être incohérente avec la première partie qui est un peu limite, pour moi, politiquement.
On pense en ce qu'il veut faire.
C'est le problème, c'est que c'est exactement ça. C'est dans la première partie, on a l'impression qu'il veut aller vers la limite la comédie légère, quoi, avec des personnages caractérisés de façon assez simple. L'homme à femme, celui justement qui en a pas et qui en veut, on a l'impression de revenir dans les codes de la comédie un peu populaire,
mais ça marche plutôt bien
et ça marche plutôt bien comme ça, sauf que justement c'est complètement incohérent avec ce qui va arriver ensuite, quoi. Il aurait fallu un background beaucoup plus complexe dès le départ.
Après on voit quoi, on sent où il veut en venir avec ce voilà, c'est un peu lourdeau, mais le bateau qui est un peu le symbole du pays qui tout va à volo, ça coule, etc. Le capitaine qui à chaque fois répète ça se barre en sucette, le pays nous sucre, etc.
Bon, je pourrais être d'accord avec cette lecture un peu métaphorique de la Corée si on n'était pas uniquement dans des classes sociales les plus basses, puisque finalement il n'y a pas de représentant du gouvernement, il n'y a pas de représentant de l'État. Mmh. Donc on reste vraiment.
C'est super maladroit. Oui, non, mais c'est super maladroit. Et comme tu dis, on peut l'interpréter dans le sens où les classes les plus populaires sont un peu des mecs super tangents qui vont craquer. C'est des gros psychopathes en puissance. On peut l'interpréter comme ça, mais je pense qu'on peut aussi l'interpréter dans le sens où c'est un peu ce bateau, c'est cet objet un peu possédé, ou je sais pas, où en fait ça réveille, c'est ce bateau et ces événements qui réveillent justement les instincts les plus vils et bas de ces personnages. Donc après ça peut être interprété des deux façons, mais je pense que c'est super maladroit dans le traitement, quoi.
N'est pas Buñuel qui veut.
Il y a un peu de ça, ouais.
Il n'y a pas de Bong Joon-ho qui veut.
J'ai plus l'impression qu'il cherche son inspiration vers Tourneur plus que vers Buñuel. Hein.
Il joue sur le hors-champ, sur ce qu'on voit pas, etc. Après, ça, esthétiquement, c'est assez intéressant, quoi. La scène du brouillard est super impressionnante. Il y a quand même quelque chose, mais voilà. J'ai pensé au radeau de la Méduse aussi, au tableau. Mais dans l'écriture c'est trop maladroit et
bon, après il y a le personnage du jeune et de la clandestine qui sont un peu là pour contrebalancer,
mais ils sont très mal écrits,
mais c'est pareil, ouais,
ils sont très mal écrits. On a l'impression que c'est vraiment les deux héros positifs, ouais. Et c'est comme tu disais tout à l'heure quand on discutait, c'était vraiment les deux beaux gosses, et on a l'impression que c'est les deux cautions du public un peu plus jeune qui
d'ailleurs lui c'est un chanteur
bah
de
voilà, hip-hop bah voilà. Ouais. Donc qui s'identifie, voilà, je le savais même pas, tu vois, et qui s'identifie au personnage, quoi. Donc Voilà.
Bon, après, le film a quand même, effectivement, on en a parlé plutôt négativement, mais je pense que c'est un film aussi qui a à voir et qui a des côtés assez positifs. Non,
il a pas mal de après, là, si je me rappelle bien, la fin sur la plage, là, je l'ai trouvé pas mal. Enfin, c'était une bonne idée, quoi, avec les potes. Ouais. Les...
Mais je pense que c'est une bonne introduction aussi au cinéma coréen, où c'est bien de le sortir en salle, en tout cas, parce que j'ai vu, il y a un jeune public, ça a attiré un jeune public. Et il y a des retours assez positifs sur le film, donc je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée justement.
Pour ça, ouais, ça donne un peu envie de le soutenir.
Parce qu'après, on a envie de dire.
Des films comme Ardé, comme
voilà. On a envie de le dire, voilà, si t'as aimé ça, tu peux peut-être aimer Bong Joon-ho, et puis après, il peut peut-être encore aller plus loin. Et puis voilà, c'est un bon point d'entrée, je trouve, pour le cinéma coréen.
Mais est-ce que c'est plutôt étonnant, justement, pour quelqu'un qui a écrit Memories of Murder
Bah non, pas vraiment, quoi.
Bah du fait qu'il n'y ait pas cette ce côté régulier justement.
Mais ça aurait été
peut-être mieux.
Ah, peut-être aussi la part de Bong Joon-ho qui lui arrivait à se renseigner son matériau d'origine.
C'est ça.
C'est ça aussi. Après, je pense qu'il a d'énormes qualités en termes de mise en scène, mais je pense pas qu'il a vraiment la qualité de Bong Joon-ho. Après, il faudra vérifier sur plusieurs films. C'est vrai qu'il a commencé déjà avec un premier film qui était assez ambitieux, quoi. Bon, tu me diras, même si c'est quasiment un lieu unique, presque, c'est quand même un tournage longtemps en pleine mer. Enfin voilà, c'était c'est pas fait en studio, hein, donc il a vraiment voulu avoir des conditions assez extrêmes pour le faire. C'est pas évident, et finalement, le film tient bien là-dessus, quoi. Donc,
c'est pour ça que cette première partie est très intéressante, tant qu'on est dans l'aspect social, un peu
Oui, c'est ce qui est le plus réussi, finalement. Voilà.
Qui est quasiment jamais montré au cinéma.
Mais le basculement,
c'est assez passionnant.
Le basculement est trop abrupt, finalement. Parce qu'il est tout début, en réalité, tu sens une espèce de folie grimper et tout ça. Bon, mais après, tout à coup, ils sont tous tarés, quoi. Ils deviennent tous des psychopathes.
Trop hystériques, en fait.
Trop hystériques, et voilà.
C'est déjà vu dans le cinéma.
C'est ça.
C'est des grands guignols, en fait. C'est des grands guignols.
Tu les sens parce que tu sens quelque chose qui va pas. Tu sens qu'ils sont.
Oui, voilà.
Il y a le vice un peu avec les femmes.
Mais il a fallu que ça glisse de manière un peu plus subtilement pour qu'on accepte finalement les outrances de la fin, quoi.
C'est ça.
Mais bon.
Après, ils tombent dans les travers du cinéma coréen.
Après, je pense qu'aussi, les producteurs, c'est ce qu'ils demandent aussi.
C'est ça.
Je sais pas si tu te souviens, c'était justement au FSCP là, pour le film de clôture, qui était un film sur le jeu de Go.
Ah oui, voilà. Divine Move.
Voilà, Divine Move, qui est finalement un film très distrayant. Le type l'a expliqué, voilà, c'est les producteurs, ce qu'ils veulent, c'est qu'à un moment, les types prennent des marteaux et se tapent dessus, quoi. C'est ce qui plaît aux Coréens.
Mais c'est ce qui plaît aux Européens aussi.
Oui, voilà,
c'est ça qui est triste.
C'est un boy un peu, quoi.
C'est ça.
Voilà.
Donc Seafog, Les Clandestins, est sorti le 1er avril. Vous avez toujours l'occasion de le voir, il est toujours en salle. Autre film, lui très japonais, on va avoir l'occasion d'en parler. La Maison au Toit Rouge, qui est le dernier film de Yamada Yoji. Voilà, un cinéaste. Nous avons... je ne sais pas ce qu'on va dire sur...
Yamada Yoji, en gros... Yamada Yoji, c'est vraiment l'une des figures assez importantes du cinéma japonais encore en vie, quoi. C'est-à-dire, il a 84 ans et il continue de tourner, et c'est vraiment l'un des piliers de la Shochiku, quoi. Il est arrivé, je crois, un peu de temps après la bande Ozu dans les années 60, et il est devenu vraiment l'auteur populaire, mais vraiment populaire. Il a réalisé quasiment tous les épisodes d'une série qui s'appelle Tora-san, et à peu près il y a plus de 50 épisodes. Et donc voilà, c'est l'histoire du gentil gars.
T'es en train de nous dire, c'est le Guillaume Musso japonais, c'est ça?
non, quand même, c'est un peu mieux que ça, quand même. Voilà.
C'est plutôt de l'anti-Oshima dont on parlait.
Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que ce que Oshima cherchait justement à subvertir, lui, il est carrément resté dans ce moule-là, et il l'a perpétué. Il l'a perpétué avec un certain talent, ça plaît beaucoup. Et on l'a connu en France un peu plus tard, avec ses quelques films de samouraï qui sont sortis au début des années 2000. Samouraï Samouraï, qui était plutôt réussi. La Servante et Samouraï, et puis Love and Honor, qui est sorti en Angleterre. Donc, bon, voilà, il a quand même un vrai talent. Maintenant, la Maison au Toit Rouge, ce qu'on pourrait retenir de son cinéma, quoi. Là, c'est vraiment un film qui est fait d'une part pour ramasser la récompense, au Japon et même à l'étranger, parce qu'ils l'ont présenté pour les Oscars.
Il a eu l'actrice principale a eu le prix d'interprétation à Berlin.
Ah oui, donc voilà.
Jusqu'à chez nous, un peu plus modestement, il y a eu le prix du public avec Inotayo. Donc c'est un cinéma japonais qui est très plébiscité, en tout cas à l'étranger. Oui, voilà. C'est un peu ce qu'on attend.
C'est du cinéma, c'est cliché, c'est pas classique, c'est vraiment c'est cliché, un peu désuet. Alors c'est joli fait, hein. C'est vraiment les acteurs jouent très bien, il y a des jolis costumes, mais finalement c'est pas très intéressant quoi. C'est pourtant le film est assez ambitieux parce qu'c'est une narration qui se base sur trois époques et qui se répond les unes avec les autres, et il traite vraiment de comment dire du point de vue des Japonais pendant les événements de la guerre, et notamment quand les Japonais sont arrivés à Nanking quoi. Et, bon voilà, on apprend qu'ils avaient fêté cet événement et que les supermarchés allaient faire des soldes incroyables quoi. Donc voilà, alors ça a été un massacre total quoi. C'était une des pires boucheries, d'ailleurs c'est une raison pour laquelle la Chine est toujours ne pas signer le traité de paix avec le Japon. Donc voilà, il y a des choses intéressantes, mais c'est tellement gentil, policé, innocent, bien que ce soit le point de vue de la servante qui est un peu idéalisé. Ça ne va pas très loin. Les personnages, manquent de chair. Et puis, finalement, quand vraiment il doit y avoir du drame, ça passe pas du tout, quoi. L'émotion ne monte jamais. Donc, c'est un film qui voilà, c'est gentil, c'est poli. Je pense que ça marchera plus pour un public qui n'est pas forcément initié au cinéma japonais et qui, du coup, aura finalement tous les clichés qui peuvent se faire, les idées qu'on a un peu reçues, c'était la japonais. Donc voilà, on y boit le thé, on parle doucement, il y a des jolis kimonos, les japonais sont très jolis, ils sont très polis, il y a des jolies maisons, il y a du joli bois, et puis voilà.
C'est vrai que Yamada, dans son propos, dit qu'il a voulu parler de cette époque troublée parce qu'elle est en résonance avec l'époque troublée d'aujourd'hui, donc effectivement, parler du malaise qu'il y a dans la société japonaise actuellement, et on a du mal vraiment à le déceler dans son film en fait. Enfin, tout semble idéalisé, très propre, très beau, ouais. Y compris la période qui décrit. Sidi, je crois que tu as un point de vue beaucoup plus positif que nous sur
beaucoup
le film.
Plus. Je suis d'accord sur plein de points. Effectivement, c'est un film qui manque de complexité au niveau du traitement historique. C'est un film qui met un peu hors champ. Mis à part sur la fin, où il est bien obligé de montrer un fait historique qui met un petit peu hors champ, ce qui se passe en dehors de ce cadre. Mais pour moi, le plus intéressant dans ce film, c'est justement l'utilisation de cet espace. Donc on accompagne le point de vue du personnage d'Aki, une vieille femme qui raconte à son neveu étudiant ce qu'a été sa vie de servante d'une famille bourgeoise juste avant-guerre. Et ce qui m'intéresse, c'est ces années effectivement de l'entrée dans cette famille, le début de son service, auprès de cette famille finalement très gentille, très aimable, qui l'accueille. Voilà quoi, elle devient un peu presque la grande sœur du petit garçon. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, dans cet accompagnement du quotidien un peu idéalisé japonais de cette période, qui, à mon sens, est assez cohérent et qui fait qu'on entre assez facilement. En tout cas, moi, je suis entré assez facilement dans ce film, qui est loin d'être un chef-d'œuvre, mais voilà quoi, ça rend d'autant plus notable l'évolution arrivant avec l'introduction dans la maison d'un nouveau personnage, à savoir le jeune dessinateur employé du chef de famille, dont j'oublie le nom, je crois que c'est Itakura. Et le fait est que la maîtresse de maison tombe amoureuse d'Itakura et qu'elle va progressivement entamer une liaison avec lui, que la servante veillera à tenir un peu secrète, voilà quoi. Le fait est que le chef de maison est un peu aveugle à tout ce qui se passe en dehors, voilà, c'est une sorte de patriarche totalement concentré sur la hiérarchie, sur le travail. Pour lui, rien ne peut se tramer, on va dire, derrière les apparences. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre les femmes, cette espèce de confiance qu'il y a au départ, en tout cas, entre la servante et sa supérieure, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui va progressivement évoluer vers une sorte de défiance. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus le personnage de Taki s'approprier l'histoire dont elle n'est au départ que spectatrice. Et je trouve assez intéressante la manière dont elle s'immisce finalement dans cette histoire d'amour entre les autres qui la rend finalement moins lisse, moins unidimensionnelle qu'on pourrait le penser. Après, oui, c'est un film qui montre l'émotion de manière très littérale très naïve lorsque les personnages pleurent, on voit des grosses gouttes tomber. Voilà quoi, il y a ce côté qui peut parfois faire un peu sourire, mais globalement, je le trouve suffisamment bien cadré, au sens vraiment littéral, pour qu'on passe un moment assez. Voilà quoi. Mais bon, je sais que je suis un peu minoritaire par rapport à ça, donc.
Pour revenir un petit peu sur le film, sur le plan formel, effectivement, c'est pas un grand chef-d'œuvre. Mais il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est la façon dont le réalisateur a essayé de se mettre dans la peau des personnes dans les années 30. C'est-à-dire ne pas essayer de réviser l'histoire comme lui l'entend en 2000 ou dans les années 2000, mais en essayant de se mettre dans la peau des gens qui vivaient vraiment à cette époque-là. Et c'est là que c'est vrai que le film tire sa force, même s'il la tire pas suffisamment et que c'est pas vraiment un grand film. Mais on peut quand même noter que c'est quand même assez bien vu de voir justement comment les Japonais eux-mêmes vivaient cette séquence de leur histoire qui est quand même assez pénible et qui, même aujourd'hui, reste assez pénible et est toujours un petit peu pas mis sur le côté, mais les Japonais ont du mal à vivre avec cette réalité. Et je trouve que c'est assez bien que ce réalisateur-là ait voulu un petit peu casser les règles en essayant de se mettre à la place des Japonais à l'époque sans savoir les conséquences que la guerre allait apporter au Japon.
C'est ça, les personnages ont une certaine méconnaissance de ce qui va advenir pendant ces années 30 qui nous sont brossées.
Ils sont endoctrinés, tout simplement. Enfin, je veux dire, ils croient en un empire japonais, quoi. Pour eux, la guerre en Mandchourie, ça va ouvrir de nouveaux marchés. Ils accueillent ça de manière très très positive. Quand ils apprennent que le Japon a attaqué Pearl Harbor et a longtemps guerre contre les États-Unis, ils se disent mais c'est formidable. C'est une réaction qui nous paraît un peu qu'on connaît tout ça, mais bon, voilà, c'est l'empereur était le tout puissant, quoi, et il lui faisait confiance et bon bah.
Mais peut-être qu'ils avaient vraiment cet état d'esprit à l'époque.
Mais bien sûr, mais ils avaient de regard endoctriné pour.
C'est justement pour ça que le film est très intéressant.
Mais au fur et à mesure que l'armée japonaise déchantait et puis que finalement ils étaient en manque d'hommes et commençaient à recruter, il y a le suspense justement sur l'employé, l'amant de la maîtresse de maison. Ouais. Je crois qu'il a un problème physique et il pense être exempté. Et puis, sur la fin, on se demande est-ce qu'il va y aller ou pas.
Mais après, les raisons pour lesquelles il finit par s'engager sont intéressantes. C'est-à-dire qu'il finit quand même par s'engager. Il y a presque quelque chose d'un peu suicidaire dans sa décision. C'est-à-dire qu'en ce sens, je trouve que l'histoire d'amour est assez primordiale quand même. Sa relation.
Il n'est pas engagé, il est appelé. Il va pas de son propre gré, il pense qu'il va y échapper parce qu'il a un handicap, et finalement il recode tout le monde et il doit y aller.
D'accord, j'ai peut-être eu un défaut d'interprétation.
Le Japon, c'est pas scandale, hein. Ouais.
Mais voilà quoi, c'est un film qui a quelque chose d'effectivement assez lisse, mais qui pour moi n'est pas si propre que ça dans le détail. Voilà.
Je voulais juste, peut-être en repensant au film, je trouvais qu'en fait, je ne sais pas si vous souvenez au tout début, je crois que c'est le neveu de Taku, qui est la femme de la mère, qui lui dit « Ouais, mais tu racontes l'histoire, mais tu mets rien de vraiment, pas de temps dedans, vraiment, et tout. » Mais elle lui dit « Mais non, c'était comme ça, et tout. » Et voilà, c'est comme ça qu'elle se souvient, en fait, de l'époque. Et c'est peut-être pour ça que le cinéaste a peut-être pris aussi cet angle-là. Mais ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'on lui reproche de ne pas mettre normalement une tempête ou quelque chose et tout. Et donc, bizarrement, tout le déclenchement narratif en fait, de l'histoire principale arrive le soir d'une tempête, enfin le soir d'un passage de typhon et tout. Donc, du coup, oui, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu classique et tout, quoi. Mais je ne trouve pas si inintéressant pour le coup.
C'est un vrai film d'intérieur, quoi, qui s'appelle pas La Maison en Toit Rouge pour rien, parce que cette maison est vraiment le lieu principal de l'action. Quoi.
Le seul problème, peut-être que c'est pas forcément le meilleur témoin de l'histoire, parce qu'il n'avait pas accès à tout, à tout, quoi. Donc du coup, on est vraiment resté plus ou moins dans cet angle-là, et donc c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être le film qu'on a là maintenant, mais... Mais voilà, quoi, c'était pas.
Donc à voir peut-être qu'on, comment on pourra réévaluer ce film dans quelques années comme un film classique. Nicolas, tu voulais rajouter quelque
chose? Non, ce que je trouvais intéressant, c'était qu'il y a toujours une espèce d'ambiguïté par rapport à la servante, par rapport à ce qu'elle ressent aussi pour l'employé. C'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'elle est dans une espèce d'état de sacrifice permanent par rapport à la femme. Et qu'elle a peut-être des sentiments pour l'employé. C'est pas forcément justement très appuyé, mais on peut penser qu'elle a aussi, telle qu'elle ressent quelque chose, mais qu'elle peut pas, parce que justement la femme a déjà pris la place, quoi. Donc il y a une espèce de rapport de force comme ça, hein, très subtil peut-être, par rapport à leur position justement, et cet employé. Ça, c'est peut-être le seul truc intéressant que je trouve du film d'ailleurs, mais bon, après, rejoins les.
Ça dit quelque chose de l'ambiguïté du rapport de classe, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on est effectivement intégré dans cette famille, il y a ce côté effectivement, tu es chez toi, donc voilà, il y a ce côté très lycée. Voilà quoi, elle masse sa patronne, il y a quelque chose de presque un peu sensuel entre elles, il y a vraiment une proximité. Mais on sent qu'au fur et à mesure que le temps passe et qu'il y a cet intrus qui entre dans l'échiquier, eh ben on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se pervertit un petit peu. Et voilà, c'est un film sur la petite histoire, je pense, plus que la grande. Et qu'à cette échelle-là, il est plus réussi effectivement que si on le contextualise par rapport à une éventuelle ambition historique, quoi.
Moi, pour le coup, vous m'avez donné envie de le revoir sous ses diverses interprétations. Donc ça tombe bien, il est toujours en salle. Donc c'est La Maison au Toit Rouge de Yoji Yamada. Il s'agit d'un des films de l'année 2014 pour nous, il était dans notre top 10, qui sort en DVD le 7 avril. C'est Leçon d'harmonie d'Emir Benghazine. Donc on a eu l'occasion de revoir, ou l'on a l'occasion de revoir en DVD. Sidi, toi tu l'as découvert donc à l'occasion de cette sortie.
Ouais.
Qu'en as-tu pensé? Alors, est-ce que tu peux le recontextualiser un petit peu pour ceux qui l'ont un petit peu oublié depuis deux ans qu'on l'a vu?
Alors, Leçon d'harmonie, c'est l'histoire d'un adolescent dans un petit village kazakh, voilà, quoi, qui vit avec sa grand-mère. Et ça va l'accompagner dans de ses journées interminables au collège avec ses camarades. Voilà, il est un petit peu leur tête de turc. Et voilà, quoi, ça va accompagner, on va dire, la prise de pouvoir d'une victime. Enfin, il n'est pas la seule victime, en fait. Il faut vraiment expliquer que dans ce collège, il y a une organisation faisant que les plus anciens demandent à des plus jeunes de racketter leurs camarades pour des raisons diverses. Voilà quoi. Et dans la classe, parmi les enfants de l'âge du petit héros, il y en a un qui se focalise particulièrement sur lui, si j'ai bien compris. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Non, tu ne l'as pas vu depuis un moment. Donc voilà, donc c'est un film qui va accompagner, on va dire, la résistance à l'oppression scolaire. Voilà, c'est un film qui part du statut de victime pour ensuite voir comment le rapport peut s'inverser. Et qui montre que finalement, on n'est peut-être pas voué à être victime toute sa vie, quoi. Alors, une fois introduit le scénario du film, moi je vais maintenant parler de sa mise en scène. C'est un film qui se focalise totalement sur la surface, c'est-à-dire que c'est un film qui ne va, comme un petit peu certains films de Haneke ou autres, s'intéresser qu'à ce qui est visible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment pour moi d'ambiguïté en dehors de ce qui est. C'est-à-dire que c'est un film qui ne croit qu'à ça, qu'à ce qu'il y a, quoi. À ce niveau-là, c'est un film assez intéressant. On est assez fasciné par la manière dont il utilise le corps de ses personnages qui déshabille pas mal, quoi. On voit quand même pas mal ses personnages torse nu. Voilà, on voit que le personnage est très chétif, on voit d'autres camarades de son âge qui ont un peu plus de gabarit, et on voit un peu les défiances qu'il y a en dehors des salles de classe, mais parfois même au sein de la salle de classe. Donc tout ce côté-là est assez intéressant pour ceux qui ont eu une adolescence difficile. Ça peut éventuellement leur réveiller des souvenirs de mecs qui
des profitent,
voilà quoi.
Surtout pour les Kazakhs d'ailleurs.
Voilà, en plus.
Qui vous écoute.
Voilà. Donc, j'ai beaucoup entendu parler de ce film en bien, on nous parlait de la révélation d'un cinéaste, mais il y a quelque chose qui m'a laissé à distance. Je l'ai vu hier, donc je ne sais pas encore si je peux totalement l'expliquer.
C'est un premier film, hein. Donc c'est le premier film d'Emir Benghazine.
Hein. Comment il s'appelle ?
Emir Benghazine.
Emir Benghazine, ouais. Je crois que mon problème, il est dans le fait que j'ai peut-être un peu trop vu des films un peu comme ça sur l'absence d'horizon
d'une jeunesse, c'est-à-dire que il n'y a pas d'autre issue finalement que le coup pour coup, que le donnant-donnant. Et à un moment, je me dis, bon, d'accord, tu le fais plutôt pas mal, d'accord, ça se tient, mais so what, quoi. C'est-à-dire que moi, ces films un petit peu carcéraux, un peu chirurgicaux, comme ça, il y a un moment, bah, il m'a manqué un petit truc qui me donne l'impression qu'il y avait vraiment une plus-value.
J'ai pas envie de parler de la fin et du dernier plan ouais. du film, justement, parce que les gens peuvent le redécouvrir et le découvrir en DVD, parce que j'imagine qu'il n'a pas fait non plus des millions d'entrées en salle. Mais il y a justement ces échappées un peu hors du réel qu'on trouve, notamment le dernier plan, donc qui font qu'on est au-delà de la surface aussi, on est aussi dans l'intériorité du personnage. Il y a un aspect extrêmement métaphorique de toute cette construction scolaire comme un espèce de retournement effectivement de la figure de la victime qui se reflète et qui continue sur l'oppresseur et l'oppressant dans la société kazakh, qui sort un peu de ce constat très social. Enfin, c'est pas du Jacques Audiard, quoi, pour le coup. Et c'est pas du Haneke non plus, je trouve. On est justement dans quelque chose qui va au-delà. De par le dernier plan, de par quelques scènes un peu surréalistes, il y a des scènes de torture qui sont très étranges. Il y a des constructions avec des animaux, ils jouent avec des scarabées qui torturent. Il y a des constructions électriques autour d'animaux, d'insectes, qui amènent le film, à mon sens, dans une autre dimension du simple constat social, critique par rapport à la société kazakh.
Mais je trouve qu'il y a une sorte d'application justement dans ce rapport un peu métaphorique, c'est-à-dire que on arrive à comprendre effectivement le petit bonhomme, il aime bien effectivement expérimenter sur des insectes, sur des lézards, sur des machins. Donc on voit effectivement qu'il y a forcément un parallèle entre ce que lui vit dans son collège et ce que lui fait subir à ces machins. Il y a aussi un truc sur son rapport à son propre corps, à l'hygiène. Voilà, le sang contre l'eau. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui font
ouais,
que
c'est très étrange, tout ça, quand même. Enfin, c'est pas...
J'ai trouvé ça étrange. J'ai pas trouvé ça
si étrange. En tout cas, c'est singulier. Je trouve que, justement, il y a une patte singulière dans cette mise en avant de ces éléments. Au sein d'un cinéma auquel... voilà, le cinéma kazakh est aujourd'hui dominé par le réalisme social, très cadré d'Omir Baev. On nie un peu... Mais en même temps, il y a cette espèce d'échappée, de liberté comme ça qui transparaissent dans ces scènes qui me semblent assez singulières, dans ces thématiques.
C'est assez anxiogène et effrayant. Et je pensais à Cronenberg aussi dans le côté monstrueux, dans le côté on le voit toujours torse nu, il est un peu difforme. Et souvent, on filme les corps un peu comme ça. Tu as toujours l'impression qu'il est malade, etc. Mais moi, en fait, ce qui m'a le plus plu, c'est pas vraiment le contexte, c'est pas vraiment la métaphore de la société kazakh, etc. C'est plutôt très terre à terre. C'est vraiment la façon qu'il a de filmer ce microcosme de l'école comme c'est il y a tout un crime organisé en fait au sein de l'école.
Une petite mafia.
C'est ça. Et donc c'est un film de mafia vraiment. Où t'as le chef de bande qui est là et qui terrorise un peu tout le monde et je trouvais ça assez intéressant de montrer justement ce système là qui petit à petit est mis
à la tête duquel d'ailleurs il y a deux jumeaux, c'est ça,
qui sont... Ouais, il y a deux jumeaux,
des gens qui sont à l'extérieur aussi
qui créent quelque chose qui sort du réalisme. Enfin, tout de suite on est dans une étrangeté du réel, et Cronenberg c'est une excellente référence d'ailleurs. Enfin,
moi, et en fait il te montre à chaque fois justement il te montre à chaque fois qu'il y a toujours une couche qu'on voit pas, il y a toujours quelqu'un pour terroriser l'autre, et que c'est une boucle sans fin de violence et de terreur, quoi, et que ça finira jamais, et que justement c'est labyrinthique, quoi, cette école on n'en sort jamais, quoi, finalement, et que toute ta vie tu restes à l'école en fait finalement, et que cette position sociale que tu as à l'école tu la gardes en fait toute ta vie. Et
dernier plan.
C'est très violent et c'est anxiogène parce qu'on se met à la place de cet enfant là. On est avec lui et on souffre avec lui et on a envie justement. Il provoque cette envie de coup pour coup comme tu disais tout à l'heure. On a la tentation de se dire et ça nous passe par la tête. On se dit mais fais quelque chose quoi. Et je trouvais ça intéressant, cette manière de montrer justement qu'à chaque fois, il y a toujours quelqu'un pour nous écraser, pour nous, pour nous terroriser. Je trouvais ça super fort et super.
Nicolas. Ouais.
Moi, de ce que je me rappelle, c'est que j'avais beaucoup aimé la façon dont il utilisait en fait les objets, des objets, des motifs, pour faire avancer, pour faire évoluer sa narration en fait, comme le verre qui est au début dans la scène où je crois donc il se fait examiner et après ils font une mauvaise blague avec le verre et donc ce verre revient après et donc ça lui rappelle un peu tous ces moments-là, ces moments difficiles, et c'est ce qui va le faire évoluer le personnage vers l'issue que l'on connaît sur la fin en fait. Et il y a d'autres exemples, je me rappelle plus exactement, ça fait longtemps, mais je sais qu'il y avait d'autres exemples dans le film comme ça d'objets qui servaient un peu de motif comme ça pour faire avancer, pour évoluer le personnage et faire avancer l'action.
C'est ça, il y a un point, on voit le personnage qui prend, et on sait que ça va arriver, mais on se demande comment il va réagir et jusqu'où il va aller et quand il va craquer en fait. Et puis en plus les persos sont très bien écrits parce que il y a ce caïd là avec son jogging, sa chaîne en or, il est grotesque, mais en même temps tu comprends pourquoi un gosse comme ça chétif etc a peur de ce genre de type quoi. Et vraiment il est très bien écrit, il est très bien campé, en plus on a vraiment la tête du mec quoi, t'as envie de lui mettre des baffes quoi. Et justement cette idée là que voilà, c'est un caïd et on se demande quand est-ce qu'il va réagir quoi, et c'est assez intéressant. Et
justement je trouve que le film là, justement ça, en vous écoutant, ça m'éclaire un peu sur certains points. Je le trouve plus intéressant dans la mise en place, dans l'installation, que dans le cheminement. C'est-à-dire qu'effectivement il est très fort pour nous montrer ce cadre très précis, pour nous montrer cette hiérarchie, pour nous montrer que le supposé caïd n'est pas forcément celui qu'on croit, puisqu'il y a encore des gens au-dessus de lui, les fameux jumeaux, qui l'intimident, qui le forcent d'une certaine manière à harceler ses camarades. Donc il y a effectivement quelque chose de très intéressant dans le dessin pur du lieu, de ce microcosme. Mais pour moi, il y a un problème de cheminement, c'est-à-dire que c'est un film où, pour moi, profondément, s'il se passe quelque chose, je ne le perçois pas sur ces 2 heures. Je pense qu'il a du mal à tenir la distance. Et j'ai du mal à ressentir la douleur accumulée du héros qui l'amènerait à passer à l'acte, finalement. Déjà, les choses sont plus racontées que montrées par rapport à son évolution. C'est-à-dire que on nous dit ce qu'il aurait fait plus que l'on ne sent factuellement que le gars prendrait du pouvoir sur ses oppresseurs. C'est-à-dire que voilà, un temps il est un peu spectateur de la souffrance d'un camarade qui lui dit voilà quoi, qu'on l'a tabassé, qu'il a mal à la jambe, entre autres choses. Il voit aussi un jeune gars qui a osé prendre sa défense face au petit caïd en pleine classe, se faire tabasser, avoir plein de blessures. Donc voilà, mais le personnage reste quand même assez opaque. Voilà quoi, je trouve qu'on ne voit pas vraiment quelque chose se passer à l'intérieur de lui. Je dis pas qu'il doit nous faire du Sean Penn et nous montrer se vautrer par terre pour montrer oh non c'est pas possible, je t'aurai mec. Non c'est pas ça. C'est juste que je trouve que c'est plus les autres, notamment les policiers sur la fin, qui vont nous dire ce que le personnage aurait fait. Le personnage, le cinéaste en fait jusqu'au bout une sorte de figure un petit peu observatrice, opaque, oui, qui expérimente des petites choses sur les bestioles, mais en lui-même, je ne le trouve pas si fascinant que ça. Je trouve qu'il y a un problème de cheminement qui ferait qu'on aurait le sentiment qu'il y a une montée en puissance.
Pour moi, c'est un parti pris, je pense. C'est plus par ses actions que par forcément son...
Non, même pas, mais je suis d'accord avec toi. Il a, quoi, on ne voit pas ce qui... on ne sait pas, il est opaque, voilà, comme tu dis, mais ouais. En fait, il le porte sur lui, quoi. Ouais. On le voit, quoi. On n'a pas besoin de voir ce qui se passe dans son cheminement intellectuel, mais physiquement, quoi. Physiquement, tu le vois qu'il... Tu le sens, il se traîne, là. Il est là, il a le regard un peu vide.
Pour moi, il y a une litanie de petits rituels, quoi.
C'est ces petits rituels-là.
Mais sur 2 heures.
C'est ces petits rituels-là qui te font dire, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Le mec, il est dans sa chambre, il fait cramer des petits cafards avec des trucs, il les fait à la chaise électrique. C'est là que tu vois que bon, le type, il y a quelque chose qui va pas chez lui, quoi, et que
par ses actions.
Voilà. Non, mais même physiquement, vraiment sur lui, quoi. Ses côtes, ses yeux creusés. Tu sens qu'il est le mal-être, il le traîne sur lui, quoi. C'est physique, vraiment.
Bah, je trouve qu'il y a 2 personnages de résistants plus intéressants dans le film. Il y a son supposé pote, un peu plus grand que lui, qui lui, on le voit quand même, il vient de la ville, il se dit je suis là pour quelque temps d'ici la fin de ma scolarité. Et c'est quelqu'un qu'on voit quand même se révolter, c'est quelqu'un qu'on voit, c'est vrai qu'il est présenté comme une figure moins fascinante que le petit héros. Donc il a un côté un peu plus humain, ses affects sont un peu plus lisibles. Donc lui, c'est assez intéressant de suivre son destin. Il est à la fois secondaire, mais je trouve que c'est quand même...
Mais justement, c'est un enfant, quoi. C'est un enfant, un vrai enfant. Et j'ai le souvenir d'une scène où il l'emmène dans une salle d'arcade, il va jouer aux jeux vidéo, etc.
C'est son rêve de pouvoir y retourner. Mais il se trouve un petit peu emprisonné, effectivement, dans ce cadre-là. Et il y a un autre personnage de fille qui porte le voile, pour se soustraire au regard des garçons, même si... on ne devine cette fascination des garçons pour sa beauté qu'à travers sa parole, mais je trouve ça assez intéressant, le discours qu'elle a auprès d'une conseillère, je crois, d'orientation. Puis généralement, même si les femmes ne sont pas très mises à l'avant dans le film, je trouve qu'il y a une manière de les utiliser assez intéressante. Il y a un érotisme lointain, il y a une séquence dans laquelle le petit héros, c'est peut-être la seule séquence où il est un petit peu de son âge, un peu humain, un peu, où il dit à la jeune fille voilée, est-ce que je peux te raccompagner chez toi? Et elle lui répond, tu es très malin, mais je ne suis pas certain de tes attentions. On a un sourire à ce moment-là parce qu'on se dit, oui, ce garçon pourrait finalement se laisser aller un petit peu plus à ses petits émois de garçon de son âge.
C'est justement ce sourire-là qui l'empêche vraiment de...
Mais on lui refuse ça, parce qu'on veut en faire une figure un peu fascinante et opaque.
Mais c'est un film sur la masculinité aussi. Ces mecs-là, ils sont tous en train de... Voilà, c'est une concours de celui qui est la plus grosse, quoi, pour parler.
C'est une concours de bites, quoi.
C'est ça.
Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'effectivement, il boit le verre en face de
ce truc. Ils sont tous dans cette optique-là. Et justement, cette femme-là, quoi, cette fille-là, arrive à percer un peu ses défenses. Et on sent qu'il tombe amoureux d'elle, quoi, parce qu'il la regarde un peu de loin, il est là. Il est subjugué, quoi, par sa beauté, et tu sens qu'il manque pas grand chose pour qu'il laisse tomber ses défenses et qu'il y aille, quoi, mais il peut pas se permettre ça.
D'un plan, comme tout, c'est un peu esquivé, d'où le fait que je dise que c'est vraiment un film de surface, c'est-à-dire tout est un peu mis à plat. Il y a le plan qu'il doit avoir pour qu'on comprenne à ce moment précis ce qu'il faudrait comprendre, mais je trouve que profondément, même si, je le répète, il utilise vraiment très bien les plans, je trouve qu'il manque un petit quelque chose aujourd'hui qui ferait que ça s'incarnerait vraiment. Voilà. Après, c'est loin d'être un film nul, mais c'est vrai que j'ai du mal à partager votre
entendu. Après, c'est l'onérisme aussi, c'est le côté un peu surréaliste qui amène justement ce second degré, ou je sais pas, où tu dis qu'il y a plus que ça et que c'est peut-être aussi. Il rêve de quelque chose d'autre. C'est un truc sur le malaise, quoi, sur le mal-être adolescent, où il rêve quelque chose d'autre, mais que voilà, à chaque fois il est rappelé, c'est plombant, quoi, il est rappelé à la réalité tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je trouvais ça super intéressant.
Donc en attendant L'Ange Blessé, qui est le titre, donc on connaît déjà le titre du prochain film de Magazine, qui sera d'ailleurs produit par Kadak Film et par Capricci, donc il y aura une coproduction française. Vous pouvez revoir ou voir Leçon d'harmonie en DVD chez Blackout à partir du 7 avril. Justin, j'ai l'impression que nous avons un peu perdu depuis qu'on a évoqué Anne Que tout à l'heure. Je sais que tu voulais également nous parler d'un autre film disponible en DVD, le dernier Benny-chan.
Oui, donc White Storm, donc c'est un peu un gros polar dans la tradition un peu de ce qui pouvait se faire dans le polar héroïque de Hong Kong des années 80, surtout sous influence John Woo, donc avec une histoire d'amitié, de trahison. Donc une grosse saga d'amitié sur fond de trahison entre trois amis. Et donc donc c'est rien de novateur par rapport à ce qui pouvait se faire à l'époque, mais bon, il y a des scènes d'action plutôt impressionnantes. Le côté mélodrame, parce qu'il y a des rebondissements assez grossiers, mais comme chez John Woo, ça parvient à plutôt émouvoir, les personnages sont attachants, donc la mayonnaise prend. Bon, on pense quand même à une balle dans la tête, par exemple, c'est quand même assez appuyé. Et donc les scènes d'action sont plutôt impressionnantes, des gunfights aussi au niveau de la mise en scène très très impressionnant. Avec l'outrance aussi, pour rester sur John Woo, l'outrance mélodramatique qu'on avait peut-être un peu perdu dans d'autres polars récents. Donc voilà, les balles illimitées, les rebondissements énormes, le final. Le final dans un lieu clos à 3 contre 100, assez outrancé, mais c'est plutôt une efficace et prenant, c'est plutôt un bon polar.
Nicolas, tu confirmes?
Oui, bah, tout à fait, ouais, c'est John Woo, John Ito, quoi. C'est l'école hongkongaise des années 80-90, quoi. Et c'est pas du tout original, mais c'est très efficace, et ça envoie du parpaing, quoi, donc
Parce qu'il y a deux grosses scènes d'action quand même, il y a du partant. Ça envoie du partant. Parce qu'il y a, il y a un gunfight à la fin, puis il y a une espèce de courte poursuite dans la jungle.
Avec des hélicos et tout.
Voilà, qui est quand même
une zone pirotée. Coup de parpaing.
On voit, ça donne bien envie. Après, après le son d'harmonie, je pense qu'on peut, on peut se faire un petit
bénéfice. Ouais, je sens Ben Benichon est vraiment un
faiseur.
Voilà, qui est très honnête, même plus connaître que du cinéma hongkongais, quoi. C'est. J'aimerais bien que d'autres films plus sont.
Bah là, il y a le. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce du Ringolam, là, mais.
Oui, voilà, enfin.
Ça envoie du lourd, du bois et.
Bah, et du parfum.
Et du parfum.